Les normes, quoi de moins normal, avec Ino Lamler Prix, Lango Maï, Jean-Louis Meureau, Jean-Pierre Bolognini, Thierry Thévenin et Ruth Stegazy.
Alors on va parler ce matin des normes. Et le titre, vous l'avez vu, c'est « Les normes, quoi de moins normal ?». Ce matin, justement, j'écoutais une radio et j'ai appris une nouvelle tout à fait étonnante. C'est une nouvelle maladie qui est arrivée. Ils appellent ça une hystérie alimentaire. Et ça s'appelle l'orthorexie. Vous connaissez ? C'est super grave. Vous risquez de l'avoir, donc je vous préviens, faites très attention. L'orthorexie, ça consiste à vouloir manger sain. Et c'était présenté, effectivement, ce matin, comme une hystérie alimentaire, le fait de vouloir manger sain, bio, pas trop de viande, pas trop de gluten, de machin, etc. Et ils étaient assez inquiets et ils disaient que vraiment, il fallait faire attention parce que ça se développait et que c'était du grand n'importe quoi et que cette nouvelle norme de la bio, c'était un coup des lobbies, les lobbies de la bio, bien sûr. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les normes évoluent. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, la bio, c'était vraiment que des tarés. Et là, aujourd'hui, ils sont tellement puissants qu'ils essayent d'imposer leurs normes et que les malheureux marchands d'agroalimentaire, ils sont un peu obligés de contourner cette nouvelle norme terrible qui pousse tout le monde à la maladie et à l'hystérie. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que dans l'esprit de nous tous, les normes restent encore extrêmement vissées, collées à des questions de santé et de sécurité. La norme, c'est une sorte de gris-gris qu'on agite devant tout le monde. Dès qu'on entend parler de normes, si c'est aux normes, on se rendort, tout va bien. Si c'est pas aux normes, eh ben, tout de suite, on est un peu inquiet, quoi. Si c'est pas aux normes, est-ce que ça va pas me rendre malade ? Est-ce que ma sécurité n'est pas en jeu ? Est-ce que ça va aller bien pour moi ? Donc ce matin, on va discuter de plusieurs exemples à travers lesquels on va essayer de dissocier ces questions-là et de s'apercevoir qu'elles ne se recouvrent pas exactement. Alors il y a au bout de la table Inopris qui s'occupe d'une petite conserverie artisanale, la transformation des légumes sur la ferme même où ils sont produits et qui vous parlera des normes dans cette conserverie. Et puis à côté, c'est Thierry Thévenin, qui est donc herboriste, porte-parole des Simples. Tu es toujours porte-parole des Simples, au moins, voilà, c'est bon. Du syndicat Simple, qui va nous parler des plantes médicinales, sauf qu'on n'a pas le droit de dire qu'elles sont médicinales. D'accord ? Donc la norme, c'est on ne dira pas qu'elles sont médicinales.
On peut dire qu'elles sont médicinales, mais on ne peut pas dire à quoi
t'as un micro.
On a le droit de dire qu'elles sont médicinales, mais on ne peut pas dire à quoi elles servent.
Donc on ne vous le dira pas. D'accord ? C'est top secret. Et puis Jean-Louis Meureau, qui a été éleveur de brebis toute sa vie et qui a eu à rencontrer un nombre de normes absolument hallucinant, parce qu'en tant qu'éleveur, eh ben, on est confronté à une sorte d'avalanche de normes. Et puis Marité Chopin, qui est déjà intervenue hier pour parler des vêtements et qui fait partie de l'atelier Laine Europe, et qui a été une des instigatrices qui a permis de remonter la filière laine en France et en Europe, et qui va nous parler des normes qui pesaient sur la laine, qui pèsent encore jusqu'à un certain point. Et là, ça sera un exemple plutôt heureux, vous allez voir, plutôt joyeux. Alors je propose qu'on commence par le plus secret d'entre nous, Thierry Thévenin, qui va donc nous parler des plantes médicinales.
Bonjour. Les normes et les plantes, ça va malheureusement très bien ensemble parce que je crois que tu l'as dit, Ruth, ce qui se cache derrière les normes, c'est la peur, en fait. Et plantes et peur, ça va bien ensemble aussi, puisque évidemment, ingurgiter une plante, surtout si elle est médicinale, ça peut toujours présenter un risque et à chaque fois, c'est un petit peu une aventure. Hein. En général, on prend une plante médicinale à un moment donné où peut-être on se sent pas vraiment en sécurité. En plus, on prend quelque chose d'assez compliqué et où il y a encore une large part d'empirisme. Donc, c'est vrai que plantes et normes, ça fait pas forcément très bon ménage. Et ça remonte de très très loin. Les normes et les plantes, en fait, ça remonte dès qu'il y a urbanisation. Dès que les gens sont un peu trop nombreux au même endroit et sont agglutinés en ville, il y a des normes qui se mettent en place. Et il y a le premier code médicinale a déjà, enfin, écrit, hein. Je parle pas de choses qui pourraient être orales et qu'on aurait pu complètement oublier. Enfin, des traces écrites, c'est 3500 ans en arrière, en Mésopotamie, où les premières cités apparaissent, où les gens se rassemblent, et donc on met en place des normes. Et à chaque fois, ces normes, c'est quoi? C'est effectivement un peu... Enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec le terme de gris-gris. Je parle même un peu de rituel ou de religion. C'est un petit peu comme quand on avait peur du diable, on faisait son signe de croix. Ben, maintenant, on a une nouvelle religion qui est plus scientifique, qui est plus hygiéniste. Et du moment où on a respecté un certain nombre de gestes, d'attitudes, de protocoles, de façon de faire, on pense être en sécurité. Et c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. La preuve, notamment dans le secteur du médicament, qui est sûrement un des plus normés, où il y a vraiment les bonnes pratiques pharmaceutiques, où il y a un arsenal de normes qui est absolument hallucinant et sans doute bien plus grand que dans n'importe quel autre secteur. C'est pourtant là où récemment on a pu voir qu'il y a eu le plus grand nombre de morts. Certains médicaments ont tué des milliers de gens. Donc on voit bien que c'est d'abord un gris-gris et c'est quelque chose qui tient pas vraiment la route. Alors moi, j'aime bien regarder le passé. Parce que c'est vrai que du coup, ça permet un petit peu de sourire des fois, parce qu'on se moque un peu de nos ancêtres. Les vieux, on s'en moque parce que c'est rigolo, parce que nous, on sait, quoi, on n'est pas comme les autres. Mais ça permet aussi de voir un peu où on en est et on peut faire des transpositions. Et là, j'ai amené quelque chose, enfin moi, qui m'avait vraiment un petit peu surpris. Ce que je vais vous lire, c'est vraiment comment officiellement un inspecteur apothicaire reconnaissait un charlatan. C'était au 17e. Donc c'était un traité, ça s'appelait le traité du charlatan découvert. C'est-à-dire, on disait aux apothicaires et aux inspecteurs des apothicaires, parce que déjà au 17e, il y avait une police sanitaire et donc où on essayait de voir si des gens, justement, étaient dans la norme ou pas. La norme, c'était quoi? C'était d'avoir été à la faculté, donc de savoir parler latin. D'être un homme, c'était interdit aux femmes, bien sûr. D'être chrétien, bien sûr, c'était interdit aux juifs ou c'était interdit à tous les non-chrétiens. Donc voilà, comment on reconnaissait le charlatan? Et c'était on ne peut plus sérieux. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez rigoler, mais en fait, ça montre bien ce qui se cache derrière cet état d'esprit. Alors, les gens hors normes, en fait, on les reconnaissait, il y avait 5 points. Donc, il y a 5 points qui permettent de reconnaître un charlatan. La première condition, c'est de se déguiser. Et le diable dans le paradis se déguise en serpent. Alors effectivement, les charlatans, c'était souvent... Charlatans, il y a deux hypothèses pour l'étymologie. C'est les gens qui se déplacent. Il y a l'idée de se déplacer, d'être itinérant. Donc il y a beaucoup de gens qui venaient d'Italie, d'ailleurs, pour vendre des remèdes. Ou alors de parler. Parce que c'est vrai que c'est des gens qui vendaient leurs remèdes sur les foires. Donc ils se déguisaient. Bon, c'est vrai, quand on est sur une foire comme elle était au 17e, un peu animée, fallait un peu se faire repérer, fallait se faire remarquer. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient illettrés, donc c'est vrai que chaque profession avait en général un costume ou une apparence assez codifiée, assez normée, on va dire, qui permettait aux gens de savoir à qui on a affaire. Donc voilà, première condition, ils se déguisent, parce que le diable s'est déguisé en serpent. La seconde, c'est de monter en banc, et le serpent monta sur un arbre. Donc... En fait, effectivement, quand vous êtes dans une foire, vous les adressez. Là, on est monté, on est peut-être un peu diabolique, hein, j'en sais rien. Enfin, on est monté sur un banc pour pouvoir vous parler. Donc ça, c'est le deuxième signe. Le troisième, c'est de dire et raconter des mensonges. Et le mauvais ange a dit à nos parents, « Jamais vous ne mourrez. » Voilà, bon, c'est un petit peu ce que nous promet souvent l'industrie pharmaceutique. Peut-être pas aussi péremptoire, mais ça y ressemble un petit peu. La quatrième, c'est de se moquer de la simplicité du peuple. Et vous serez comme des dieux, le démon a ajouté. Tout ça, c'est la Genèse, en fait. Hein. Et la dernière, c'est de vendre des boulettes. Car c'est une pomme que le tentateur offrit à notre mère. Et voilà. Bon, alors aujourd'hui, bien sûr, on rigole. Mais franchement, si vous regardez comment est fait un contrôle, moi, je pense, par exemple, aux bonnes pratiques pharmaceutiques, en fait, ce qu'on va demander aux gens, c'est souvent des choses comme ça qui sont vraiment de l'ordre de l'apparence et qui ne vont pas tellement au fond. On va regarder si y a la charlotte sur la tête, on va regarder si ceci, on va regarder si cela. Et finalement, le fond importe peu.
Alors, voilà. D'autant que la connaissance des plantes, ce n'est pas ce qui est le plus répandu aujourd'hui. Et donc, les contrôleurs, est-ce que ce sont des gens qui connaissent bien les plantes?
En général, non. Ils connaissent bien leurs normes. Donc, il y a des ISO, ceci, ou des règlements européens, cela. Donc, ils font appliquer une norme. Mais c'est vrai que c'est souvent vraiment... Bon, moi, je me souviens, par exemple, c'est une autre norme aussi. C'est la norme de l'agriculture biologique. J'ai été pendant quelques années Je me faisais contrôler pour pouvoir utiliser le logo AB. Et ce qui m'a fait craquer la dernière année, où c'est en fait, là encore, on applique une norme. Donc en fait, le contrôleur, il avait une espèce de petit décimètre et puis il cherchait à savoir si la diagonale de mon logo AB faisait bien 15% de la diagonale totale de l'étiquette. Voilà. Mais c'est un peu caricatural, mais c'est du vécu. Hein. Et c'est vrai qu'une fois qu'il avait fait toutes ces choses-là, il n'avait plus beaucoup de temps pour aller dans le jardin ou aller sur le terrain, quoi. Donc voilà, pour moi les normes c'est ça, c'est quelque chose qui est très ancien, qui est très ancré, et ça correspond à une espèce de rituel qui est là pour essayer d'exorciser ses peurs en fait.
Mais si, j'aimerais quand même que tu fasses un lien aujourd'hui entre ce système de normes, les lois qui prévalent en France sur justement sur l'apprentissage, la transmission des savoirs au niveau des plantes et quand même les différents corps de métier qui s'intéressent à ces plantes. C'est important de dire deux mots là-dessus. La pharmacie...
Là, effectivement, oui. Aujourd'hui, ils sont réputés pouvoir vous renseigner sur l'usage des plantes. Ils ont légalement le droit de le faire, ce sont les pharmaciens. Et si on regarde alors comment est pratiqué l'enseignement, effectivement, ça pose vraiment question, puisque c'est à peu près 80 heures par an qui sont dédiées à la phytothérapie dans le cursus des étudiants. Donc c'est vrai que c'est absolument insuffisant. Ils sont souvent ceux qui s'intéressent aux plantes. Il y a pas mal de jeunes qui font pharma parce qu'ils s'intéressent aux plantes. Ils sont les premiers à s'en plaindre. Et effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant. Mais voilà, on est dans un cursus qui est reconnu, qui est validé par les pouvoirs publics, qui a lui-même ses normes au niveau de l'enseignement. Alors que d'autres enseignements beaucoup plus longs et beaucoup plus complets qui existent, comme certaines écoles d'herboristerie ou autre chose comme ça, celles-là n'ont pas le tampon normatif, elles ne sont pas normatives. C'est souvent des associations qui sont à l'origine, c'est des gens qui se sont rassemblés, qui ont essayé de construire ensemble quelque chose qui leur paraissait pertinent. Ça dure souvent 2 ou 3 ans, et ça, c'est vrai que c'est absolument pas reconnu, quoi.
C'était tout simplement pour demander, vous exemptez de votre critique quand même la définition botanique d'une plante qui est mise sur le marché par la code INCI, et puis vous n'êtes certainement pas contre les contrôles de pesticides sur les plantes qui rentrent sur le marché.
Il y a eu récemment... Alors, tenez, ce que j'ai dit tout à l'heure vaut pour tout le monde. Vous tenez votre micro sur le menton.
Il y a eu récemment, avec le développement de la médecine chinoise, il y a eu des importations de plantes venues de Chine hautement toxiques, mal définies et contaminées. Donc, vous n'êtes certainement pas contre qu'on contrôle effectivement la botanique. Et vous n'êtes pas contre les contrôles de contaminants ?
Bien sûr que non, mais je ne suis pas contre ça. Je suis beaucoup plus pour l'éducation et la formation. Et à mon avis, les normes, ça déresponsabilise les gens. Si on pense que les contrôles ont été faits, on va être plutôt se comporter d'une manière un petit peu confiante et aveugle, et on perd son autonomie. Un exemple tout simple, par exemple, il y a un circuit qui est réputé sûr pour acheter des plantes médicinales, c'est la pharmacie, et il y a eu quelques années des problèmes de confusion entre la badiane de Chine et la badiane du Japon, et on voit bien l'AFSAPS a demandé l'interdiction de vente dans les pharmacies de la badiane parce que les pharmaciens n'étaient plus capables de reconnaître les deux espèces. Alors qu'en fait, vous avez les deux espèces dans les mains, vous montrez un enfant de 5 ans, en 5 minutes, il sait faire la différence, quoi. Donc moi, je crois beaucoup plus, et malheureusement, on ne fait pas ce choix-là au niveau politique, mais à l'éducation du consommateur, des professionnels, à leur formation, à apprendre à être autonome, que à des normes qui déresponsabilisent et finalement sont pas efficaces, parce que du coup on se repose, on ferme les yeux et souvent les accidents sont beaucoup plus larges et beaucoup plus vastes.
Vous aviez 2 questions, c'est bon? Ok, alors Jean-Louis Meureux.
Essayez de donner le regard d'un éleveur sur cette question des normes. Alors les normes qu'on nous impose, eh bien, c'est vrai que la plupart, elles sont pas. Il y en a qui sont obligatoires par les règlements. Il y en a d'autres que c'est pas forcément obligatoire, mais c'est tellement contraignant, c'est tellement une obligation économique, disons, que les éleveurs sont souvent obligés, ou les bergers, de passer par là. Alors, sur le. Moi, j'ai été éleveur dans la Drôme de brebis laitières. Et je prendrai des exemples, d'une part, sur sur la vie du troupeau et la reproduction, d'autre part sur le pâturage, et puis enfin sur aussi la viande. Alors je me suis reporté au dictionnaire pour voir ce qui se cachait derrière cette question de normes. Je vais vous citer, c'est assez court. C'est un ensemble de règles d'usage, de prescriptions techniques relatives aux caractéristiques d'un produit ou d'une méthode, édictées dans le but de standardiser et de garantir les modes de fonctionnement, la sécurité et les nuisances. Donc ces mots sont importants, standardiser et les modes de fonctionnement. Standardiser, quand on voit ce que c'est un troupeau d'ovins qui pâture par des collines, par des alpages, on voit qu'on est... cette grande diversité à la fois des bêtes et du milieu, on est loin d'une standardisation. Mais vous verrez comment les règlements y conduisent à une certaine uniformité et standardisation. Alors en élevage ovin et caprin, depuis l'année 2011, les bêtes qui sont nées après juillet 2011, elles doivent toutes être identifiées avec une boucle électronique et ce qui est apposé à l'oreille gauche. Évidemment, ça veut dire qu'après, cette identification peut être reliée par des machines électroniques, par des ordinateurs, et on peut faire des listes des bêtes, et ainsi, au niveau d'un département ou même au niveau national, on peut avoir le fichier de toutes les bêtes. Alors les éleveurs et les bergers, quand ils ont eu ça sur le dos, ils se sont révoltés. Enfin, pas tout le monde, mais un certain nombre. Il y a eu un courant de refus de cela parce que les éleveurs, ils ont bien senti que derrière ce fichage, ils perdaient une partie de leur liberté et c'était aussi mettre une distance entre eux et leurs bêtes. C'était chosifier en quelque sorte les animaux comme on pourrait chosifier, comme des produits, comme des séries de bouteilles ou de... une bouteille ou de... je sais pas quoi, des voitures. Or, c'est, voilà. Et donc, il y a eu des mouvements en France qui se sont traduits dans des collectifs pour refuser. Mais bon, alors, il faut savoir que vous savez qu'en élevage ovin, les éleveurs, les prix pratiqués sont très bas et donc l'économie du troupeau, elle peut tenir qu'en grande partie parce qu'il y a des primes, mais que l'accès aux primes, elle est conditionnée à l'obéissance à ce règlement de fichage électronique. Et donc il y a un certain nombre d'éleveurs qui ont refusé le bouclage électronique et qui se sont vus sanctionnés au niveau de leurs primes. Alors, donc après, c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'éleveurs qui ont quand même bouclé électronique, mais à contre-cœur, hein, en refusant cela, quoi. Après, je voudrais citer le...
Moi, j'aimerais que tu parles quand même aussi de ce qui se passe dans l'élevage des volailles. Dans l'élevage aussi des bovins.
Je voulais citer les volailles après un petit tour sur les ovins.
Ah oui, très
parce
bien,
qu'il y a une
oui.
certaine unité, mais on y reviendra sur la question des volailles. Il y a aussi, donc, puisqu'on j'ai évoqué les primes, il y a des primes sur les surfaces, ce qu'on appelle notamment l'ICHN, indemnité compensatoire du handicap naturel. Et dans la nouvelle réforme de la politique agricole commune, alors qu'autrefois, on pouvait... mettre dans nos dossiers les surfaces des landes ou des bois, pour les fonctionnaires, notamment européens, ils refusaient de prendre en compte ces surfaces, disons, de milieux hétérogènes, parce que c'est des milieux qui sont très différents d'une jolie prairie grasse. Voilà. Et face à Donc le nouveau règlement européen prévoyait d'exclure toutes ces surfaces de milieux hétérogènes et pauvres, qui sont les surfaces principales dans le sud de la France, sur les côtes et les collines, les alpages. Et finalement, bon, devant la levée de boucliers, ils ont accepté de les prendre en compte, mais en affectant un pourcentage, c'est-à-dire qu'un hectare de lande ne vaut pas un hectare de pâturage. C'est en fonction de la densité éventuellement des arbustes ou des arbres. Donc il faut, on applique ce qu'on appelle un prorata, c'est-à-dire qu'on va estimer qu'un hectare, eh bien, en fait, c'est pas un hectare, c'est moins, c'est 30% ou 60% d'un hectare. Alors vous voyez, là, il y a cette tendance. Tout à l'heure, dans la définition, j'ai évoqué la standardisation et l'uniformisation. On est là dans une vouloir ramener des surfaces hétérogènes à un niveau d'une pâture ensemencée en régras ou en luzerne. Vous voyez que l'aberration dans laquelle on est, quoi. Parce que ça, c'est imaginé par des politiciens ou des hauts fonctionnaires qui ne connaissent rien à la vie de l'élevage. Or, ces surfaces, les éleveurs et les bergers, ils savent comment les gérer et comment gérer la vie du troupeau en motivant les brebis dans leur comportement alimentaire par des circuits de pâturage et aussi par l'éducation des jeunes qui accompagnent les brebis adultes. Voilà, il y a toute une pratique des bergers pour faire en sorte que ces milieux apparemment pauvres et hétérogènes, eh ben, ils ont vraiment une certaine richesse. Et ça, évidemment, c'est inconnu pour les gens qui veulent façonner par le règlement l'agriculture et l'élevage en particulier. Ensuite, je voudrais évoquer à propos des normes, la sélection génétique de la résistance à la tremblante. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, il y avait la vache folle, donc une maladie à prions. Et c'est donc une maladie qui était apparue nouvellement chez les vaches, les bovins. Mais les ovins, depuis longtemps, on connaissait une maladie à prions qui était, disons, naturel, qui arrivait dans les troupeaux. C'était ce qu'on appelle la tremblante. Et donc, il y a eu toute une politique qui a été mise en œuvre à la fois par le ministère, mais aussi, hélas, avec le concours de certaines organisations professionnelles pour lutter contre la tremblante. Parce que quand une bête manifestait des signes de tremblante, eh bien, on pouvait considérer que on ne sait pas, ça pouvait être la tremblante, qui est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme, mais ça pouvait être aussi éventuellement une maladie ESB, ce qu'on appelle la vache folle, qui aurait été passée aux ovins. Et les scientifiques avaient mis en évidence qu'il y a des configurations génétiques qui permettent une résistance naturelle, qui permettent une résistance à la tremblante. Donc l'idée était simpliste, c'était de généraliser cette configuration génétique à l'ensemble des reproducteurs pour arriver à ce que les troupeaux ils soient soi-disant naturellement résistants à la tremblante. Et derrière cette volonté, il y avait pour des organisations professionnelles une volonté d'avoir un atout commercial, c'est-à-dire par rapport aux ovins qui provenaient d'autres pays, de dire bah, nous en France... Nos brebis, nos agneaux, ils sont issus de troupeaux naturellement résistants à la tremblante. Et donc, il y a eu des programmes qui ont été élaborés, qui auraient voulu obliger tous les éleveurs à s'approvisionner en reproducteurs qui avaient la résistance génétique à la tremblante. Alors, heureusement, ça... Cette obligation, elle s'est faite pour les éleveurs qu'on appelle sélectionneurs, mais les autres éleveurs n'ont pas été obligés parce que c'était trop complexe à mettre en œuvre ce programme. Mais vous voyez, on a voulu parce que ça voulait dire qu'on privilégiait les animaux porteurs de la résistance naturelle génétique à la tremblante, mais ça voulait dire qu'on excluait les autres qui n'avaient pas cette configuration génétique. Et donc, c'était un appauvrissement de la diversité génétique. Et vous voyez, pour arriver à ce que les troupeaux soient génétiquement résistants à la tremblante, on allait éliminer massivement des reproducteurs et donc affaiblir la diversité génétique. Parce que quand on élimine des reproducteurs qui sont soi-disant sensibles à la tremblante, on ne sait pas les autres qualités que peuvent porter les gènes de sensibilité à la tremblante. Il y a d'ailleurs, même les scientifiques le reconnaissent parce qu'ils ont mis dans des congélateurs la semence des bêtes sensibles à la tremblante qui n'était pas éliminée. Voilà, alors il faut voir que cette résistance à la tremblante, eh bien évidemment, c'est le fait des sélectionneurs. Et les sélectionneurs, c'est une élite, c'est une minorité d'éleveurs qui se considèrent comme l'élite et qui sélectionnent, soi-disant, l'élite des reproducteurs. Vous voyez, c'est toujours. Et ça a été imaginé par des scientifiques qui appartiennent à l'élite de la nation, quoi. Voilà. C'est toujours cette vision élitiste du monde et de la société. Voilà, il y avait ces trois aspects donc le bouclage électronique, donc ce qu'on appelle l'identification des ovins, l'aspect du pâturage aussi. On a voulu réduire cette diversité de la ressource alimentaire à l'étalon des prairies du bassin parisien ou des régions riches, et puis la diversité génétique des ovins. Je pourrais évoquer aussi, vous avez entendu parler qu'actuellement il y a la grippe aviaire dans certains départements. Là, sur le plan sanitaire aussi, les hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture obligent les éleveurs à avoir ce qu'ils appellent des mesures de biosécurité, c'est-à-dire construire des sas d'entrée dans chaque bâtiment avec des itinéraires pour pas que ça se croise, et obligation de changer de vêtements quand on passe d'un bâtiment à un autre, etc. Et en fait, tout ça, c'est vu dans une optique d'uniformiser aussi. Et bon, on voit bien que l'idéal pour eux, c'est que toutes les bêtes soient en bâtiment, fermées, comme ça, c'est tout est sous contrôle, quoi. Hein. D'ailleurs, je pourrais évoquer aussi un autre aspect, c'est à propos des loups, hein, la prédation des loups. Et ben, moi, j'ai des collègues, les fonctionnaires leur ont dit, ben, les loups qui attaquent la nuit les troupeaux, la nuit ou le jour maintenant, et ben, mais vous pouvez pas les mettre, vous les enfermez en bergerie. Ben oui, voilà. L'avenir, c'est l'élevage hors sol, c'est l'élevage en bergerie ou dans des bâtiments fermés. Voilà, ça, on n'en veut pas, mais voilà, c'est ça. Vous voyez, la standardisation, finalement, la standardisation, que la définition que j'ai citée tout à l'heure, elle évoquait, c'est faire prendre par les éleveurs et les bergers des processus qui sont de type industriel. Et comme ça, ben, tout sera sous contrôle, quoi.
Eh oui, en t'écoutant, je me disais qu'on aurait pu appeler cette table ronde le prestige de l'uniforme, parce que c'est vraiment l'uniformité qui est prestigieuse aujourd'hui. On recherche du même partout, et pour ça, il faut éliminer un maximum. Alors, tu l'as pas précisé tout à l'heure, mais quand tu as cité les pâturages, la compensation de handicap naturel, le handicap naturel, c'est la pente. Il faut savoir qu'une pente, c'est un handicap naturel, parce que quand même, le normal, c'est tout plat. Vous voyez, il faudrait que la terre soit plate partout, parce que dès que ça monte ou que ça descend, ben, c'est un handicap naturel. Et donc là, il faut penser à des compensations. Et effectivement, ben, les bêtes, il faut qu'elles soient toutes exactement pareilles. Il faut qu'elles descendent toutes du même taureau, du même bélier, du même... Donc on est vraiment dans l'amour du même qui a succédé à l'amour de la Bible, qui était le texte à partir duquel il fallait tout interpréter. C'est ce que nous racontait Thierry tout à l'heure. Et puis il y a aussi la question de la taille. Et on va maintenant parler de ce qui se passe quand une conserverie se mêle d'être une petite conserverie. Ino.
Oui, donc pour me présenter en deux mots, donc je fais partie de Longomaille, un mouvement de coopératives autogérées en Europe depuis 1973. Je m'occupe plus particulièrement d'une coopérative qui s'est créée en 1990 dans les Bouches-du-Rhône, le Mas de Granier. 27 hectares avec des céréales, du foin et du maraîchage, et une transformation sur place, vu que en arrivant dans cette région-là, on était rapidement confronté à une production maraîchère intensive qui date de la dernière guerre et puis qui s'est bien sûr déplacée plus tard vers l'Espagne, vers le Maroc, vers l'Italie, tout ça. Mais c'est quand même une région de production intense. Et ce qui nous a motivés en voyant les surplus, les fruits et légumes qui vont sur les déchetteries, a créé une conserverie qui permettait aux producteurs de la région de transformer leurs légumes sur place. Et pour ceci, donc, j'ai fait une formation dans la transformation des légumes et fruits et de autoclavage. Autoclave, c'est donc la machine qui permet d'intervenir thermiquement pour rendre les produits stables par haute chaleur. Pour ça, il faut avoir une formation. Donc tout ça, on a fait. Et donc cet atelier accueille une trentaine d'agriculteurs sur l'année pour leur permettre de rendre leurs produits un plus-value et pour plus jeter les légumes ailleurs. C'est aussi utilisé par des projets d'insertion et par des écoles qui font leurs cours pratiques de leur formation agricole là, sur place. Eh bien, ça va de soi que cet encadrement, ça demande une certaine rigueur. Et c'est évident qu'une transformation dans le secteur alimentaire demande une maîtrise absolue de la transformation, de l'hygiène, pour écarter tout danger qu'on obtient un produit sain, qu'on risque rien en vendant nos produits sur le marché ou ailleurs. Donc, il existe ces fameux HACCP, ça s'appelle. Donc, en fait, c'est une méthode de contrôle qu'on devrait connaître quand on veut se lancer dans la production des aliments, qui permet de contrôler chaque étape de la transformation. Et chacun qui veut faire des aliments devrait donc se référer à ça. Ça me semble complètement normal. Par contre, avec tous ces scandales alimentaires, les poudres de lait intoxiquées, les conserves pourries et je ne sais où, avec aussi un élargissement du marché au niveau international, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est les aliments qui circulent, comme on a entendu hier pour les vêtements, c'est les aliments qui circulent, pas forcément les hommes. Et c'est donc la concurrence dans le secteur alimentaire qui grandit à toute vitesse. Donc les grands producteurs, les grosses usines de production alimentaire sont obligés, ou en tout cas c'est comme ça que ça se passe, qu'il y a donc une exigence de réduction de coûts. On doit absolument produire à moindre coût. Ce qui fait qu'on essaye de faire des stérilisations au minimum pour gagner quelques minutes de plus en énergie et en temps. Et c'est donc des pratiques qui sont très risquées. On a donc installé des normes de plus en plus et de plus en plus rapidement ces normes changent rattraper le non-contact qui existe à l'époque par les paysans ou les gens qui transformaient leurs légumes. Eh ben, ils produisaient ça, comme nous on le fait d'ailleurs, et on va avec nos produits sur le marché. Les gens peuvent se rendre dans l'atelier, ils peuvent regarder, ils peuvent voir comment ça se produit, ils peuvent nous parler, et puis il y a un échange direct, il y a une traçabilité, une transparence à ce niveau-là. Cette transparence n'existe plus du tout dès qu'on va dans une certaine échelle de production. Par contre, ces normes, effectivement, elles s'appliquent à nous tous. Grand, petit, moyen, tout le monde en bave. Et je pourrais donc apporter 2-3 exemples. Un autoclave qui est essentiel pour transformer des produits, il est contrôlé de toute façon tous les 18 mois. C'est obligé, c'est dangereux sinon, si ça ne se fait pas. C'est normal. C'est OK, je le comprends tout à fait. Je peux donc dire que quand nous avons rénové notre atelier en 2010, on a donc acheté des nouvelles machines. C'est des machines qui sont faites par des techniciens de grande expérience. Et 3 ans après, on s'est trouvé dans un contrôle par les services de fraude qui nous disaient « Oui, mais ça va pas du tout ». Il faut que vous ayez une multitude de preuves que cette machine, qui est neuve, marche correctement. Vous faites des cartographies, vous faites ci, vous faites ça. Donc, il y avait un programme comme ça à faire. Et j'ai donc contacté le technicien qui fabrique ces machines, qui disait, mais c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de nécessité d'avoir cette cartographie. Ce n'est pas une obligation, c'est des choses qui peuvent être demandées, mais ce n'est pas une obligation. Et ça dépend donc du service de contrôle, s'il veut ou il ne veut pas. Donc je voulais dire avec ça qu'il y a quand même un côté un peu aléatoire dans l'application des normes par rapport à qui on a en face. Juste pour dire, un technicien, rien que pour qu'il vienne avec les sondes pour contrôler la machine et pour voir si la température elle est bien répartie, eh bien, un technicien comme ça, il se fait payer la journée à 1 600 €. Donc, une boîte qui a des centaines de tonnes par jour qui circulent, ça fait rigoler. Un petit producteur qui a une petite production, ben, il rigole un peu moins. Et je pense que pour les petits ateliers, c'est vraiment un sérieux problème. J'ai le deuxième exemple qui me reste en tête de cette époque, c'est un produit qu'on fait dès le début. Dès qu'on a commencé notre conserverie, on a produit un caviar d'aubergine et qui était d'ailleurs assez rapidement sous contrôle pour voir si tout va bien. Et oui, tout va bien, la procédure est correcte, continuez. Je me trouve en 2014 avec un examen des produits et on me dit, oui, mais non, attendez, là, votre produit... Ça ne va pas du tout parce qu'il faut que vous ayez des preuves de ci, de ça, de ci, de ça. Il y avait encore une fois une liste assez énorme pour en fait apporter des preuves administratives sur un produit qui n'a jamais changé. Ça fait 24 ans, ça fait presque un quart de siècle qu'on fait le même caviar d'aubergine. Et là, ça a tout changé. Et je voulais juste aussi dire que pour un petit atelier, je pense que les fromagers sont aussi concernés comme d'autres dans l'alimentation. Eh bien, pour avoir une veille juridique, pour suivre les changements de normes, il faudrait presque avoir une secrétaire ou un secrétaire qui nous tient au courant et qui s'occupe que de ça, vu qu'il y a une vitesse de changement qui est infernale. Et si vous avez le temps, je voudrais peut-être dire encore quelque chose où je m'interroge encore aujourd'hui. On nous a dit depuis très longtemps qu'une fabrication de confiture demande un taux de sucre de 63 Brix. C'est la contenance qu'il faut mettre pour que la confiture soit stable. Et il y a un certain temps, il y a un an ou deux, on nous a donc communiqué que non, là, il n'y a plus besoin de ça, vraiment. Là, on peut se contenter avec 54 Brix. Alors, je me pose la question, d'où viennent ces changements de normes? Qui décide quoi? Puisque c'est des assemblées d'experts et de techniciens qui décident en accord avec les industriels. Qu'est-ce qui s'est fait ? Donc, est-ce que c'est le prix du sucre qui a fait décider ça, ou est-ce que c'est la santé publique ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compris. Et d'ailleurs, par exemple, un petit producteur de crème de châtaigne qui produit avec son châtaignier, je ne sais, 100 ou 200 petits pots de crème de châtaigne, eh ben, il va se trouver en compromis avec les normes qui disent que si on veut faire une crème de châtaigne stable et fiable, il faudrait la passer en température de plus que 120 degrés. Alors, ça, je veux bien, parce que c'est effectivement les gens qui exportent leur crème de châtaigne de l'Europe vers les États-Unis, ils sont obligés de faire ça, c'est la norme. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, ce petit producteur, avec ses 100 pots de crème de châtaigne? Franchement, je ne sais pas. Donc, je me suis intéressée à des initiatives qui s'interrogent aussi, parce que tout seul, on n'est carrément rien dans tout ça. Et donc, j'ai appris qu'en Italie, il y avait une initiative assez intéressante de producteurs paysans qui insistent sur le fait de la proximité, c'est-à-dire que ils refusent, c'est donc Genio e Clandestino, et c'est un regroupement de producteurs qui s'oppose à ces aberrances dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire aucunement un refus de contrôle sanitaire, de travail correct sous les critères de HACCP, tout ça, mais c'est le fait que quand un producteur produit ses produits dans une région et les gens peuvent lui parler, il y a un échange et qu'il y a une traçabilité de ce côté-là, où nous n'avons pas besoin de ces normes qui sont dédiées à la grosse, grosse, grosse industrie. Et donc là, il y a des gens qui ont commencé à se regrouper pour marquer un certain refus de ce côté-là. Et voilà, c'est un peu sur ça que je voulais insister.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point ce système de normes est un système de l'arbitraire. Et que finalement, ce qui bouge le plus, c'est les normes elles-mêmes, puisque les produits, eux, sont censés rester totalement stables, les pâturages homogènes, les moutons tous les mêmes, sauf les normes. Alors, Marité Chopin, donc à l'atelier, il y a eu aussi à en découdre avec les normes une bagarre dont finalement l'atelier est sorti vainqueur. Presque.
Merci. Donc moi je vais vous parler d'un exemple qui est un peu, on va dire, très marginal, d'un produit qui représente presque rien dans le côté de l'élevage, mais qui existe quand même. Donc on remonte à 2001, ces grandes peurs sanitaires, les vaches folles, les moutons avec la tremblante, enfin tout va mal. Donc là il y a plein de règlements qui sont mis en place qui concernent donc les produits de l'élevage. Et se raccroche à ça ce qu'on appelle les sous-produits de l'élevage. Pour vous donner un exemple, eh ben, c'est les cornes, les poils, les plumes, le son, enfin tout ce qui pouvait constituer autre chose que la denrée directement consommable. Donc, est produite à ce moment-là des règlements très importants dans les années 2002. Et à ce moment-là, les éleveurs au niveau européen, bien sûr, sont consultés pour leur demander, bon, est-ce qu'on classe les sous-produits dans des choses très dangereuses ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Exemple, la laine. À ce moment-là, la laine n'est pas du tout quelque chose qui est considéré. Ça n'a pas de valeur marchande quasiment. C'est quelque chose qui embête les éleveurs en règle générale. Et donc, au niveau européen, l'organisation professionnelle des éleveurs dit « c'est pas important ». Donc, on rentre dans ces règlements de contrôle sanitaire les sous-produits, dont la laine. Après, les règlements ont sûrement été appliqués pour la viande et pour tout un tas d'autres choses, mais la laine étant un produit minuscule, sans valeur marchande, tout le monde a ignoré cette réglementation. On savait qu'elle existait, mais ça ne changeait rien. Et puis, petit à petit, la peur, elle diminue, et les règlements, bon, on les revoit. Et on les revoit pourquoi ? en tout cas en ce qui concerne les sous-produits, c'est que sous-produits, certes, mais valeur marchande non négligeable. Et l'utilisation de tous ces sous-produits, ça a été quelque chose auparavant qui était quand même quelque chose d'intéressant, de rentable, hein, des cornes, des ongles, de tout un tas de choses. Vous ne pouvez pas imaginer, mais on en faisait vraiment quelque chose dans différents secteurs. Du coup, il y a une espèce de sursaut, c'est-à-dire on ne va pas laisser ces sous-produits comme des choses à éliminer. Mais on va revoir la réglementation, donc c'est en 2011 qu'elle paraît, pour essayer d'en faire quelque chose qui est plus ou moins acceptable et surtout utilisable. Et donc, il y a nouvelle consultation et des éleveurs, etc. Bon, c'est déjà classé comme sous-produit, la laine. Par contre, je dois dire qu'en anglais, qui est quand même la langue de référence, ça ne s'appelle pas des sous-produits, mais très pragmatiquement, comme les Anglais, ça s'appelle des by-products, c'est-à-dire des produits accessoires, mais dont la valeur est reconnue. Donc le nouveau règlement qui est fait donc, a toujours la laine en sous-produit animal catégorie 3, donc la moins dangereuse, mais quand même pouvant présenter des risques sanitaires. Je précise tout de suite qu'il s'agit de la laine sale, tondue du mouton. Vous pouvez vous déplacer avec vos pullovers sans problème. Hein. Par contre, tout ce qui est la laine sale directement venue de l'élevage, jusqu'au moment où elle est lavée, c'est-à-dire où à ce moment-là, elle prend un statut de produit industriel, alors là, elle est soumise à des règlements, c'est-à-dire le transport, le stockage et le lavage sont soumis à réglementation et à contrôle. Bon, alors on fait comme tout le monde dans notre association, on dit « Ah, les bureaucrates, mais c'est incroyable !» Ils se permettent de réglementer des choses, bon, évidemment. Après, on se rend quand même compte que c'est la profession agricole qui a considéré la laine comme un sous-produit en premier. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, ben voilà, le problème sanitaire, il est toujours là. On se confronte avec les gens avec des difficultés dès qu'on parle de santé, hein, des risques, même s'ils sont petits. Ça fait toujours peur. Donc on se dit, on va prendre un peu le taureau par les cornes. Avant que le règlement s'applique, c'était quelques mois avant, on a organisé une rencontre au niveau européen avec l'interprofession, c'est-à-dire aussi bien les éleveurs que les transformateurs et les négociants en laine, et en invitant des gens de tous les pays européens concernés. Il y avait au moins 15 ou 17 pays qui étaient représentés à cette rencontre en Italie. Et on a invité le délégué de la Commission de Bruxelles qui était responsable de l'application de ce règlement, qui est venu nous expliquer tranquillement en quoi ça correspondait. On a pu exposer au même moment les contraintes qui pesaient à cause de ce nouveau règlement sur les éleveurs, sur les tondeurs, sur les transformateurs. Bref, on est reparti. D'abord aussi, ce qui était intéressant, c'était l'échange des pratiques dans les différents pays. Parce que les Anglais, par exemple, ont dit vous savez ce que vous nous demandez dans votre règlement, on fait ça depuis 50 ans. Donc il y avait un certain nombre de choses simples qu'on pouvait mettre en pratique assez vite. Et on s'est mis d'accord que ces règlements-là, on pouvait peut-être les adapter aux petites quantités, aux déplacements locaux et à un certain nombre de choses. Donc, au niveau européen, ça a été quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on a vu que, suivant les pays, il y avait des façons de voir l'application du règlement de façon très différente. Alors, au niveau français, ce qu'on a fait, on a donc organisé une délégation parce qu'une fois qu'il y a un règlement européen, il y a encore toutes les règles d'application au niveau de chaque pays qui peuvent être très différentes. Donc on a demandé une rencontre au ministère de l'Agriculture, la responsable des sous-produits animaux. D'abord, elle n'avait jamais entendu parler de laine. Ce n'était pas quelque chose qui la préoccupait particulièrement. Mais bon, on est venu à une délégation donc interprofessionnelle. Il y avait des éleveurs, les tondeurs, les négociants, tout le monde est venu. Et on a essayé de définir avec elle une application un peu sensée, on va dire, adaptée au déplacement et au transfert, aux collectes de laine. On est arrivé à se mettre d'accord sur que le principe qui, au fond, est fondamental, c'est la laine doit voyager en sac fermé, hermétique, pour éviter des contaminations. Il y avait des règlements sur le transport en France. Il n'y a pas de contrôle, franchement, sur les transports. Ils ne sont pas arrivés à donner des normes sur la désinfection des véhicules ou des choses comme ça. Et on est arrivé aussi à dire que la plupart du temps, le stockage de laine entre l'éleveur et le lavage ou le négociant, c'était très temporaire. En général, on essaye que ça soit au maximum de quelques semaines ou de quelques mois. Donc il n'y avait pas de raison d'avoir des règlements hyper stricts pour tout ça. Bref, on est arrivé au fait que, en tant qu'association Atelier Laine d'Europe, on a rédigé un petit guide qui est destiné donc aussi bien aux éleveurs qu'aux tondeurs qu'aux laveurs de laine, avec un peu une traduction accessible du règlement et tout ce qu'on avait obtenu du ministère, et que c'est maintenant quelque chose qui sert de référence pour les vétérinaires eux-mêmes quand ils viennent faire les contrôles. On s'est aperçu même qu'on savait beaucoup plus qu'eux en général sur le règlement, mais bon, on leur pardonne parce que vraiment c'est pas un souci primordial, mais on était quand même obligé d'en tenir compte. Et je crois que ça, le résultat de cette petite action, c'est surtout qu'on a fait ça d'abord à un niveau européen. On voulait savoir comment ça se passait ailleurs et on continue à se tenir au courant de ce qui se fait dans un pays. Si, par exemple, dans un pays, on a un règlement qui facilite le transport ou le stockage pour des petites quantités, il n'y a aucune raison que dans un autre pays, ça ne soit pas appliqué. Donc, on joue toujours sur ce point-là. C'est pourquoi en Allemagne, il y en a qui est pourtant un pays sérieux, pourquoi eux, ils ont obtenu un règlement pour un stockage temporaire et pourquoi en Italie, ça ne se passerait pas. Et puis, l'autre question, c'était se tenir un peu les coudes dans la profession. Et même si, par exemple, ce qui était drôle, c'est que les grands négociants en laine, qui eux, trafiquent plutôt avec des laines qui viennent de l'hémisphère sud ou des grandes quantités, eux, ils étaient pour essayer d'abolir le règlement. Et nous, en tant que petits producteurs, on s'est dit, on nous donne l'occasion de considérer la laine, au fond, plutôt mieux que ce qu'elle était considérée avant, puisqu'avant, comme sous-produit, on la mettait dans des sacs poubelles, dans n'importe quoi. Elle était mélangée à la paille. Il n'y avait aucune attention, même des éleveurs, à ce produit. On s'est dit, si on est obligé de les mettre dans des beaux sacs propres, hermétiques, peut-être qu'on va aussi considérer mieux le produit. Et donc, le guide, il s'appelle « La laine, une matière précieuse, naturelle et renouvelable ». Et c'est un guide pour appliquer le règlement sur la laine en soin. Donc, on les a pris un peu à contre-pied. Voilà. Mais c'est minuscule. Je vous dis tout de suite, c'est un secteur ridicule.
C'est surtout une belle histoire dont on aimerait penser qu'elle peut se reproduire souvent. Mais alors, arriver à négocier avec des experts qui choisissent, qui décident les normes. Juste peut-être un petit mot de conclusion, Thierry, une histoire que tu me racontais qui servira de conclusion. Et pendant ce temps-là, vous affûtez vos questions.
En fait, c'est plus un témoignage qu'une conclusion. C'est en fait... Le système des experts, donc des gens qui vont faire les normes et qui vont écrire ces normes, et tout ça, ça va aboutir à des lois, à des règlements, c'est un système clos. Moi, je me suis rendu compte de ça très concrètement il n'y a pas longtemps. En fait, en ce moment, l'ANSES, donc Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, a fait un appel à experts pour faire un groupe d'experts qui va... En fait, ce qu'il y a, il y a une bataille au niveau des plantes entre les compléments alimentaires et les médicaments. Donc les compléments alimentaires, c'est de l'alimentation, c'est dans le domaine commercial courant. Et donc, ce qui se passe, c'est que la pharmacie essaie de ramener un petit peu ça plutôt du côté du médicament. Donc, l'ANSES a fait un appel à constituer un groupe d'experts. Et il se trouve que, comme je m'intéresse aux plantes depuis longtemps, il y a des gens de la pharmacie que ça intéressait que je fasse, pourquoi pas, ils m'ont dit, ça serait bien que tu répondes à cet appel à projet, parce que ça serait intéressant d'avoir un peu une ouverture et avoir... Alors, ils m'avaient dit, juste comme... pas pour un avis consultatif, hein, pas pour voter, pas pour prendre des décisions, mais au moins être présent et pouvoir donner quelques infos. Et bien en fait, je me suis rendu compte en essayant d'aller sur le portail, il y a un lien, ils m'ont envoyé un lien en me disant là tu t'inscris. En fait, je peux pas. Parce qu'il y a des cases qui sont pas facultatives. C'est un petit peu comme quand vous voulez vous inscrire dans un truc, vous avez des choses qui sont facultatives, d'autres pas. Et dans ces cases obligatoires, en fait, il faut avoir fait des publications scientifiques, mais qui soient notées dans des revues scientifiques. Donc finalement, c'est un système clos, quoi. Quand bien même on voudrait donner de l'ouverture, on voit qu'il y a cette... Là aussi, c'est normalisé. Les experts sont normalisés. Et si quelqu'un est soit autodidacte et pas universitaire ou n'a pas publié dans une revue scientifique, quand bien même les gens voudraient qu'il soit là, il ne peut pas être là. Voilà, c'était un petit témoignage comme ça. Et voilà.
Alors maintenant, la parole est à vous. Oui, on va vous apporter un micro.
Est-ce que je...
Tenez le micro vraiment sur votre menton. Voilà.
Pardon. Et donc, j'ai été... Bon, c'était l'Union des transports publics qui m'a désigné pour siéger dans cette commission. Ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui y étaient tous des professionnels du transport public de divers pays. Le seul paradoxe étant qu'on faisait tout en anglais, il n'y avait pas d'anglais. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et donc, l'expérience que j'en ai retirée, c'est qu'on a fait un règlement, de toute façon, qui disait simplement, si on veut mesurer la qualité de service, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de paramètres et de procédures pour qu'on puisse comparer nos résultats. Et ça a été fait vraiment par des professionnels. Et non pas par des experts en vase clos qui connaissaient rien. Ça a été ratifié effectivement par la CEN en décembre 2002. C'est vieux. C'est là. Sous le titre d'une norme européenne, EN 13816.
Tout à l'heure, moi, je n'ai pas voulu dire que les experts de l'ANSES connaissent rien. Hein. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Seulement, c'est un système de pensée, c'est un formatage, c'est une approche donc souvent très pharmacologique, très scientifique, et il manque d'autres systèmes de pensée, à mon avis, là-dedans, pour faire des choses qui soient plus proches du terrain et de la réalité, quoi. Je ne dis pas que c'est des incompétents ou que c'est des gens qui ne seraient pas professionnels.
Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai
sur
vécu...
le menton.
Pardon. Donc, moi, j'ai vécu, c'est vrai qu'en tant que producteur de fruits en bio, ce problème de contraintes réglementaires, quand on voulait, par exemple, quand on utilise... En utilisant notamment des préparations naturelles peu préoccupantes, où en fait on nous obligeait à utiliser des produits qui disposaient de d'autorisation de mise sur le marché, ce qui n'était évidemment pas le cas pour les tisanes de plantes, pour le purin d'ortie, l'huile de Nîmes, etc. Donc voilà, on s'est bagarré à un moment donné, il y a 2-3 ans, là, avec la Confédération paysanne et puis d'autres organisations. Ça a été plus ou moins pris en compte par la loi, alors je ne sais plus laquelle c'était, la loi d'orientation agricole, je crois. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de décret d'application. Donc voilà. Par rapport au... C'est vrai que les normes sont vraiment faites pour les industriels. Nous, on l'a vu chez nous avec un atelier de jus de pomme qui était traditionnel et qu'à un moment donné, on s'est demandé s'il ne fallait pas qu'on supprime cet atelier à la ferme, quoi, parce que finalement, on ne pouvait plus. Quoi. C'est impossible de continuer. On se rend compte aussi que maintenant avec le... Alors je ne sais plus, théoriquement, la réglementation, il parle de d'autocontrôle sous contrôle de l'État. C'est-à-dire que les grosses entreprises, les gros industriels qui peuvent se payer des services de qualité, enfin des services de contrôle. Alors on imagine que du coup les contrôles de l'État seront minimum. Mais ça oblige aussi les petits producteurs qui ne peuvent pas se payer ces services de contrôle à faire appel à des certificateurs, à des extérieurs privés qu'il faudra payer. Donc voilà, on est toujours dans le même cadre. Et par contre, quelquefois, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que, au contraire, les industriels cherchent à ce qu'il n'y ait pas du tout de réglementation. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour les nouvelles techniques de manipulation génétique qu'ils appellent nouvelles techniques de sélection. En fait, c'est des nouvelles techniques de manipulation génétique qui sont encore plus OGM que les OGM, qui vont poser des tas de problèmes derrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte que y a une censure. Donc, on parlait d'experts tout à l'heure. Il y a eu un avis du comité scientifique du HCB qui est allé au ministère et à l'Union européenne pour qu'il y ait des positions qui soient prises. On voit bien que les industriels, ce qu'ils cherchent, c'est que toutes ces techniques-là ne soit pas soit comme la mutagénèse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle soit exemptée de la directive sur les OGM. Du coup, on aura plein de problèmes derrière et personne ne verra qu'on a dans les champs des OGM et dans les assiettes des OGM. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des experts? On a vu qu'il y a un expert là récemment qui, au sein de ce comité scientifique, qui avait un avis divergent, qui disait « Mais attention, il y a des problèmes avec ça ». Cet avis n'a pas été pris en compte, il a été censuré. Voilà, alors c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça va un petit peu dans les deux sens. À la fois, on est victime, nous, petits producteurs, et d'une réglementation, Et à la fois, quand ça arrange les industriels de ne pas avoir de réglementation, ben c'est ça qu'ils cherchent.
Par rapport aux OGM, là, il y a une plainte recours qui vient d'être déposée. Il y a un mouvement qui s'appelle Consommateur pas cobaye. Vous pouvez aller voir, consommateurpascobaye.com, vous pouvez le soutenir. Et vous allez voir qu'il y a une plainte recours qui a été déposée sur ce problématique du manque de transparence dans tout ce qui est communication commerciale à propos des OGM, où on essaie de nous faire bouffer des OGM sans qu'on soit au courant, quoi.
Oui, concernant justement ces OGM, il faut voir aussi, tu as parlé des procédures tout à l'heure, mais il faut voir que, par exemple, ce sont les propres producteurs d'OGM, mettons Monsanto ou autres, Syngenta, qui font leur propre évaluation de la valeur sanitaire d'un produit et après qui est transmis à la commission, l'OHCB, avant c'était la CGB, et qui donc c'est déjà eux qui ont payé l'entreprise. Donc là, il y a un conflit d'intérêts très net, alors qu'on pourrait très bien demander que ce soit l'État dise, eh bien, on va prendre votre produit, on va le faire analyser par une entreprise indépendante d'évaluation, et puis après, vous paierez, c'est vous qui paierez. Or, c'est pas ça du tout. Là, on a un défaut très, très voulu, à mon avis, hein, d'organisation, de vérification de la valeur d'un produit, de telle façon que, effectivement, ça favorise les industriels. Alors, moi, j'ai une deuxième chose aussi que, justement, par contre, qui est un pavé dans l'autre sens, c'est que parfois, justement, enfin, Jean-Luc en a parlé, c'est qu'on ne veut pas de normes. Il est récemment, là, la Commission européenne a refusé de mettre des normes telles que ça a été publié sur une émission de télévision d'investigation sur les viandes clonées. Actuellement, on vend des viandes clonées sur le marché européen et ceux qui le vendent ne savent même pas que les animaux sont des animaux clonés. Donc là, c'est la Commission elle-même qui n'a pas voulu qu'il y ait une marque particulière qui indique que ce sont des vaches que ce sont de la viande clonée. Donc demain, il y aura un problème avec les viandes clonées, avec les animaux clonés. Ça risque d'arriver quasi inéluctablement. Il y aura des virus qui se mettront là-dedans parce que la biodiversité va disparaître. Et à partir de là, on aura un tas d'ennuis sanitaires qui ne sont pas pris, qui ne veulent pas prendre en compte actuellement.
Oui, vos remarques, ça montre que au sujet des normes, il y a un aspect paradoxal. Moi, j'ai décrit tout à l'heure à propos de l'élevage que l'application des normes, ça allait vers la standardisation, l'uniformisation des pratiques, des protocoles de travail, etc., des produits aussi, et que ça, on n'en veut pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les normes, lorsqu'elles sont... elles peuvent être utiles pour entraver les méfaits de l'activité industrielle à travers l'exercice de ce qu'on appelle le principe de précaution. Et voilà, c'est ça qu'il faut souligner aussi. Mais quand on impose des protocoles de travail à des bergers, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, quoi. On est dans un processus qui veut industrialiser la production pour faire plus de profit, pour que ça soit accaparé par des compagnies industrielles.
Donc, juste pour ajouter à ça, je m'interroge aussi sur les questions des dérogations. Donc, il y a des normes européennes, des décrets qui tombent au niveau Europe. Et ensuite, chaque pays a à voir comment le pays veut appliquer certaines normes. Je reviens à ma crème de châtaigne. Donc, il y a des décrets qui se discutent actuellement donc, au niveau européen. Les petits producteurs, donc ils attendent ce qui se passe en France. Et encore, la question est la dérogation, c'est-à-dire l'exception. Un tel et tel et un tel et tel pourraient éventuellement faire différemment. Donc, cette validité des normes qui sont décrétées sur la grosse industrie sont donc quand même ambiguës. Ou comment et qui décide sur les dérogations? Comment il faut faire un certain produit?
Oui, moi j'ai sous les yeux là par exemple des extraits de la norme européenne bio, hein, donc c'est celle qui est valable en Europe. Donc si on la lit attentivement, on va voir, alors c'est des extraits, hein, exclut le recours aux OGM ou aux produits à partir de OGM ou par des OGM à l'exception des médicaments vétérinaires. Voilà, on laisse comme ça des portes ouvertes. Limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse au cas exceptionnel suivant. Et on donne plusieurs cas où, quand il y a une absence de pratique de gestion appropriée, lorsque les intrants extérieurs visés au point petit b, alors c'est souvent un peu assez compliqué à lire, ne sont pas disponibles sur le marché. On dit qu'il faut réduire l'utilisation des additifs alimentaires, des ingrédients non biologiques, afin qu'il y soit recouru le moins possible. Donc ça veut dire qu'à chaque fois dans la norme, on donne quand même un espace. Et c'est un peu normal, parce que cette norme, c'est quand même, si on l'applique strictement, c'est privation de liberté. En fait, ces normes, elles sont vraiment faites pour gérer des masses de produits, des masses de gens. Et évidemment, à chaque fois, dans la norme, dans les petites lignes, on va laisser des portes ouvertes. Alors c'est vrai que la grosse difficulté, c'est quand on est petit, ça, parce que c'est vrai que quand on est gros, on a des juristes, on a des techniciens, on a des chercheurs, on a des chimistes, et on trouve toujours des contournements. Moi, je reviens un peu aux plantes, je pense aussi, par exemple, ça va loin, ça dénature les choses. Donc, par exemple, dans les compléments alimentaires, on peut utiliser une plante qui s'appelle le ginkgo biloba, que vous connaissez sûrement, hein, et c'est un arbre qui est connu, mais seulement, il faut qu'il y ait une norme, il faut que, pour qu'il puisse être mis sur le marché, il y ait l'acide ginkgolique, il y en a au maximum 5 ppm. Donc, ce que ça va induire, c'est vrai que si on est industriel, eh bien, on va mettre des chercheurs sur le coup, les instituts de recherche, souvent financés d'ailleurs avec les fonds publics, vont travailler à créer des clones ou des variétés de ginkgo avec moins de 5 ppm de ginkgosite, et tout ce qui va être une approche un peu directe, concrète, soit par la cueillette, soit par une production artisanale, va devenir hors la loi, quoi. Il y a tous ces problèmes là, quoi.
Oui, il y a une question. Monsieur Devant, et après ce sera vous.
Plus un témoignage sur les aspects normes. Je veux dire, j'ai travaillé dans un domaine, dans la Fédération des coopératives laitières du Jura. J'ai vu ce que c'était que dans les années 92, 13, 14, les normes d'hygiène sanitaire. Et alors, heureusement, il y a une filière, puisque là-bas, c'est la filière Comté-Morbié, qui a obtenu des dérogations pour pouvoir continuer à pouvoir faire affiner des meules de Comté dans des caves en pierre, pour pouvoir continuer à pouvoir poser des meules de Comté sur des tablettes en épicéa, sachant que les fromagers, ils savent très bien les nettoyer. Et j'ai jamais entendu parler de gens qui étaient malades en mangeant du Comté comme ça. Par contre, il y a des normes que j'accepte. Le problème, c'est qu'on a des excès des deux côtés. Moi-même, j'ai fait de la rénovation BBC de logements. Donc, les normes par rapport à la rénovation thermique ou la réglementation thermique me paraissent logiques. C'est grâce à une bonne rénovation, de bonnes isolations, qu'on arrive à faire des économies d'énergie. Donc, il y a des normes qui tiennent la route. Le code de la route, je ne suis pas opposé. Bon, évidemment, si on veut réduire la vitesse à 60 au lieu de 90, bon, je ferai des excès de vitesse. Par contre, alors sur un plan personnel, moi-même, j'élève mes 2-3 moutons pour pouvoir les manger. C'est moi-même qui les gorge, qui le vide, qui le dépaisse. Je fais ça discrètement parce que peut-être la DSV me tomberait dessus. Il faudrait peut-être que j'aille à un abattoir. Le problème de l'abattoir, c'est que quand vous amenez un mouton qui a plus de 6 mois, il vous garde la tête. Or, dans la tête, vous avez les joues, la langue, la cervelle. Eh ben moi, je le mange. Je garde les abats que je donne à mes chats. Donc, à un moment, les normes, ça va trop loin. Je vais prendre du lait frais directement dans le tank à lait de mon producteur voisin. Pareil, maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Moi, quand j'étais gamin, la laitière, elle passait, on entendait un coup de klaxon, elle avait 15 ou 20 bidons de lait, vous venez avec votre casserole, on n'a jamais été malade en achetant du lait directement qu'elle vous versait. Donc, à un moment, les normes, on va dans des excès, je ne sais pas où ça va. Et dernier point, j'ai habité à Lyon pendant 10 ans, j'étais au lycée Jean Moulin, sur la colline de Fourvières. Eh ben, après le repas, à la cantine, vous aviez un éleveur de cochons qui venait ramasser les restes. Et quelque part, des cochons nourris avec les restes que les gamins ou parfois les profs n'ont pas fini, c'est très bien. Eh ben, depuis je ne sais pas combien d'années, à cause de problèmes d'hygiène, ça va à la poubelle. Mais ça me dégoûte. Je ne sais pas où on va. Alors je vais aller à la conférence dans un quart d'heure, 20 minutes avec Madame Rivasi. J'espère qu'on va discuter à la fin pour dire qu'elle booste je ne suis pas du tout contre l'Europe, mais bon, il faut qu'elle progresse. Hein. Là, il y a des. Je m'interroge sur des trucs. Hein. Je ne suis pas du tout avec la sortie de l'Europe. On est dans une Europe de paix. Quand on a connu 70, 14, 18 et 39, 45, heureusement qu'on est dans une Europe de paix. Mais elle a des défauts. Effectivement, l'excès des normes, je ne sais pas où ça va nous mener. Hein.
Merci. Il y avait quelqu'un qui voulait la parole, là.
Oui, moi, je voulais dire qu'en fait, on peut quelque chose, c'est cesser d'avoir peur. Parce qu'on a bien vu que le fondement de ces normes, c'est la peur. Et donc, je pense qu'on doit faire de la résistance. C'est vrai que Michèle Rivasi ne fera pas tout toute seule et elle n'a pas, pas le contrôle du Parlement européen. Donc, c'est quand même aussi à nous de résister aux peurs et de faire de la résistance concrète en tant que consommateur, en tant que producteur, et à essayer de garder ce qu'il y a de bon sens dans ces normes et à ne pas forcément toujours respecter ce qui nous semble inutile ou inapproprié.
Bon, moi, j'ai entendu tout le long de la discussion parler de normes, de règlements et de lois. Et il me semble que le contour des différentes choses n'est pas très bien précisé. J'ai cru comprendre quand M. l'éleveur de moutons nous a parlé des normes, il a bien souligné le fait que certaines normes étaient obligatoires, enfin pas obligatoires, que les éleveurs étaient incités à les respecter pour obtenir des primes. D'un autre côté, la norme peut être contractuelle, c'est-à-dire qu'un client peut exiger, lors d'un contrat, que le vendeur respecte telle norme. Et c'est en particulier le cas de la grande distribution. Donc, est-ce que si on s'en tient une petite incidente, souvent une loi, moi je ne suis pas dans le domaine de l'alimentation, mais dans le domaine industriel, une loi, par exemple concernant la sécurité, peut être quelque chose d'extrêmement court, d'extrêmement succinct. Et par contre, la norme, les normes différentes qui évoluent et qui sont censées permettre de respecter cette loi, elles sont énormes, elles occupent des volumes et des volumes, et il est très difficile de s'y retrouver. Mais le contrat entre un acheteur et un vendeur peut imposer le respect de cette norme. Et c'est, je pense, à travers ce genre de comportement que, par exemple, la grande distribution impose des normes aux producteurs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie pour les gens qui font de la production à courte et avec vente directe, etc., pour court-circuiter tout ça.
Voilà. C'est un petit peu ça le malheur. Moi, j'ai par exemple la norme ISO 22716 là, de 2007 sur les produits cosmétiques. Un petit extrait, il convient que l'organigramme montre l'indépendance par rapport aux autres unités de l'usine, de chaque unité dédiée à la qualité, telle que l'unité de l'assurance de la qualité, l'unité de contrôle de qualité. C'est des choses qui sont des termes d'usine. Ça, c'est imposé. Même si vous faites 50 pots de pommade et que vous les vendez sur le marché du coin, vous devez respecter cette norme. Il y en a 40 pages. Donc on n'est pas exempté parce qu'on fait du circuit court, on n'est pas exempté parce qu'on fait de la vente directe.
J'ai toujours vu dans l'industrie, moi, que la norme était un moyen, mais que ce n'est pas la norme qui est imposée, c'est la loi. Est-ce que je me trompe ?
Dans le règlement si vous voulez vendre des produits cosmétiques, même artisanaux, même faits à la ferme, et que vous voulez respecter la loi, vous devez respecter cette norme-là. C'est clairement... vous ne pouvez pas y échapper. Alors, on fait un travail, on tente, avec le syndicat Simple, ça fait déjà 3 ans qu'on est dessus, de faire un petit peu comme a fait Marie-Thérèse avec la laine, de faire une adaptation de cette norme à la taille de nos entreprises. Mais c'est long, c'est un gros boulot, parce que si on n'avait pas fait ça, on devait respecter ces 40 pages de procédures qui sont inatteignables et qui n'ont aucun sens au niveau artisanal.
J'aimerais rajouter aussi que je reviens sur mon exemple d'autoclave. Tout le monde est concerné. Moi, je veux bien comprendre qu'une usine qui fournit un autoclave au tracteur qui rentre 6 à une vingtaine de palettes à la fois dans un autoclave de cette taille-là devrait faire des cartographies pour voir si la machine elle est bien homogène. Par contre, moi, avec mon petit autoclave de 500 pots, je trouve qu'il y a quand même une dérision quelque part.
C'est pour compléter sur la cosmétique. Ça a provoqué la disparition de toutes les petites entreprises dites de garage. Et aujourd'hui, on est dans un système de sous-traitance, tout simplement. Il y a des labos qui sont spécialisés dans la sous-traitance. À vous de définir peut-être encore une formule à moitié ou avec eux, et le reste c'est de la commercialisation, en fait c'est de la pub. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore des interventions?
Oui, bon, je vois une différence entre la norme et la loi, c'est que la loi en démocratie elle est votée alors que les normes nous sont imposées. par ceux qui ont intérêt à ce qu'elles se soient imposées. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, plutôt que de demander des normes pour la laine, par exemple, vous disiez, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir, établir une bonne pratique plutôt que d'appeler ça des normes? Et là, ça fait avancer les choses, hein, parce que les normes, ça.
Ouais. En fait, c'est ça. Hein. On n'a pas ici, il n'y a pas de normes. Il y a un règlement à la base et on a négocié l'application. Donc, comme vous pouvez le dire, des bonnes pratiques. Simplement rationnel et adapté, quoi. C'est tout ce qu'on essaie. Il n'y a pas de normes, hein. Il y a juste une application d'un règlement, c'est tout. Bon, moi, je veux juste ajouter que pour moi, alors, petit producteur, vente directe, tout ça, c'est super. Mais franchement, s'il n'y a pas d'action collective, on n'a aucune chance là-dedans. Hein. Là, il faut qu'on trouve des méthodes d'organisation un peu plus structurées, quoi.
Et moi, je voudrais dire, pour conclure et pour revenir sur l'exemple que Ino a donné tout à l'heure, que l'action collective, c'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement les producteurs, ça nous concerne tous. Ino a parlé tout à l'heure de Genuino Clandestino, ce mouvement en Italie de petits producteurs, donc locaux, qui ont des toutes petites unités, des tout petits ateliers et qui ne pouvaient absolument pas faire des ateliers aux normes. Il faut savoir que les fameuses normes en question, c'est celles d'un NASA, en gros. Hein. Donc ce n'était pas possible pour faire 50 ou 100 pots. Et Genuino Clandestino, ça veut dire authentiquement clandestin. Et ils ont donc estampillé tous les produits qui sortaient de leurs ateliers de cette marque authentiquement clandestin, c'est-à-dire authentiquement pas aux normes. Comment et pourquoi est-ce que ça marche? Ça marche parce que les consommateurs, c'est-à-dire nous, moi j'ai horreur de ce mot consommateur, tout le monde est d'accord pour acheter les produits authentiquement clandestins. Aujourd'hui, à Bologne, il y a 5 marchés par semaine qui vendent des produits authentiquement clandestins. 5 marchés par semaine, toutes les semaines de l'année. D'accord ? Et ça marche. Il y a du public, il y a du monde, les gens sont très contents, ils viennent. Pourquoi ? Parce que justement, ce ne sont pas des consommateurs. Ce sont des gens comme vous et moi. Eux aussi, ils ont une cuisine. Eux aussi, ils font à manger chez eux. Et ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas s'amuser à faire à manger dans l'auge des cochons. Ils savent pertinemment que quand on prépare de l'alimentation, on se lave les mains, on fait attention, on est propre, etc. Et en gros, c'est de ça qu'il s'agit. Les bonnes pratiques dont vous parlez, ce sont celles-là. Quand on est dans des petites unités, dans des circuits courts, dans des gens qui travaillent pas de manière industrielle, eh ben, on travaille proprement. Et donc, eh ben, c'est comme ça que ça marche, c'est sur la confiance. Et j'espère vraiment que cette table ronde vous aura permis de comprendre que les normes, elles sont au service d'un système et pas au service ni de notre santé, ni de notre sécurité. C'était déjà le cas quand c'était un système religieux. Aujourd'hui, la religion, c'est l'économie, c'est la grande distribution, c'est tout ça. Mais les normes, elles sont au service de ce système-là. Et c'est nous tous qui pouvons en sortir pour retrouver des normes qui nous conviennent à nous. Voilà. Merci beaucoup.